Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rochon.
Bon, alors nous avons regretté qu'il y ait peu de femmes en politique ici dans la MRC de Pierre de Sorel. C'est pas troublant, c'est en tout cas préoccupant. Là, une seule mairesse sur 12 maires. On a deux députés masculins. Je pense que Hélène Zakaïb a été la première députée femme de la circonscription de Richelieu. Bon, c'est vrai, il y a ce portrait, mais si on regarde plus largement les choses, moi, ce que je constate, c'est qu'en revanche, notre cégep est dirigé par une femme. Notre commission scolaire est dirigée par une femme. Nos organisations de développement économique, vous en êtes la preuve vivante ici, Sylvie et José, sont dirigées par des femmes. Notre régie de diffusion culturelle est dirigée par une femme. Il y a donc ici beaucoup de femmes au poste de commande. Est-ce que ça fait contrepoids à leur présence très rare au poste électif? Qu'en pensez-vous? Et d'autre part, vous êtes en politique, Maud et Diane. Est-ce qu'on peut changer tant de choses que ça en politique? Est-ce qu'il n'est pas encore plus possible de changer le monde à des postes de direction au sein d'organisations importantes et qui ne sont pas des postes électifs? Je ne sais pas qui a le goût de... Alors, Sylvie Pouliot. Oui.
C'est vrai que dans notre milieu de développement, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour manœuvrer dans le développement de notre collectivité. Je regarde mon réseau, on est 264 au Canada, à peu près 60 au Québec, et c'est la majorité des femmes qui sont aux commandes du développement de la collectivité. Mais voyez-vous, deux mots qui vont pas nécessairement ensemble, développement où on aurait l'impression qu'on va pour la croissance, la richesse, mais qui veut plutôt dire développer tout son savoir-faire, sa collectivité dans toute sa diversité et pas juste dans un secteur. Alors, je le disais tantôt, en économie, on voit de plus en plus des femmes à la tête d'entreprises. On le constate, nous, dans notre région. On le voit aussi dans nos organisations. Et plus il va y avoir ces modèles-là, plus ça va donner aux jeunes femmes le goût d'aller vers ces postes-là.
Est-ce que vous pensez que ça fait contrepoids, leur présence très, très rare au poste électif, la présence des femmes?
Moi, je pense, je crois encore que c'est le dernier plafond de verre, la pointe de l'iceberg qu'on voit, mais je crois que l'iceberg, dans sa base et même dans ses postes intermédiaires et de haut dirigeants, on est présent. Par ailleurs, je regarde, présentement, on développe beaucoup toute la partie numérique et robotique de nos écoles, nos commissions scolaires, et je vois encore des comportements genrés que j'appelle, où les sciences et la robotique numérique n'est pas toujours très attirée pour les filles, mais plutôt attirée par les garçons. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire, malgré tout, pour justement continuer à dire que c'est des potentialités, c'est des potentiels qu'on développe, c'est pas des genres, en fait.
Bien. Maud Allaire, c'est venu vous chercher, là.
Bien, c'est venu me chercher un petit peu parce que j'ai rencontré des femmes qui sont venues me rencontrer pour... on a eu une élection partielle qui aurait aimé se présenter aussi. Mais qu'est-ce qui retient ces femmes-là? C'est vraiment la conciliation famille et c'est vraiment les horaires atypiques aussi. Parce que moi, je peux commencer une journée à 6 heures du matin, mais la finir à 11 heures puis avoir 5 réunions aussi à travers ça. Fait que ça me prend de la lecture aussi pour être préparée aussi. Puis j'ai des rencontres autant le soir que aussi avec le communautaire, mais aussi avec des instances politiques autres que municipales. Donc, il faut vraiment être disponible. Puis, quand on dit qu'on le fait avec dévouement puis conviction, c'est parce qu'on veut représenter nos gens comme il faut. Puis, quand on fait une campagne électorale, c'est justement pour aller rencontrer les gens sur le terrain. Puis, ça dépend comment tu le fais. Mais moi, je l'ai fait sur le terrain pour aller rencontrer les gens, à l'écoute des gens, récolter qu'est-ce qui ne marchait pas dans chacun de mes districts. Je suis revenue, j'ai demandé à toutes mes conseillers conseiller de me dire qu'est-ce qu'ils ont entendu. On a fait un tableau de gestion, un tableau de barre, et je fonctionne avec ce tableau de gestion-là et ce tableau de barre-là. Donc, oui, en politique, on fait une différence. Et oui, on est là pour réaliser les projets puis les besoins de nos citoyens. Puis oui, quand il y a des organismes qui viennent nous rencontrer aussi pour avoir notre appui puis qu'on puisse parler en leur voix, bien, c'est à nous, après ça, à monter plus haut à certaines instances, autant à la MRC qu'autant sur des tables comme l'UMQ ou la CMM, mais, pour les faire entendre, ces groupes-là.
D'accord. Mais je retiens que ce qui peut peut-être rebuter les femmes à l'égard de la politique, ce sont les conditions de travail en politique. Alors, faudrait d'abord engager là, Sonia Etier. Là, elle vous brasserait ça, ces conditions de travail-là. Louise Potvin, vous m'avez fait un signe de la main. Je vais vous poser une question épouvantable, Louise. Écoutez bien. Là, il faut s'assurer d'abord...
auparavant.
Il faut s'assurer que la ministre n'écoute pas. C'est ce que j'ai envie de vous demander. Pensez-vous que vous avez plus les moyens, vous, comme présidente directrice générale de Centre intégré de santé et de services sociaux, de changer quelque chose concrètement que la ministre?
Bien, c'est bien que vous me posiez la question, parce que c'est la réponse que j'avais prévu vous donner.
Ah oui? Vous y allez là-dessus?
Moi, j'ai une approche assez centriste par rapport à cette question-là, parce que je me dis que, puis je répète souvent ça au cadre, aux médecins, la victoire, c'est rarement l'affaire d'une seule personne. Le résultat atteint pour un client, un usager, un patient, c'est rarement l'affaire d'une seule personne. Le médecin ne peut pas dire qu'à lui seul, il a guéri, ni l'infirmière, ni le dirigeant. Donc, pour moi...
Mais le politicien aime ça dire c'est grâce à lui. Il y a des exceptions, mais ceux-là, ils ne sont plus là.
Ah, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis moi, comme PDG, j'ai aucun problème à dire qu'un résultat atteint ou un succès, c'est grâce à un de mes dirigeants ou une des personnes sur le terrain. Faut pas voir... si on voit la victoire comme étant une source de pouvoir, et puis... ça veut dire qu'on est plus individualiste, qu'on peut être avoir une approche pour la collectivité, puis avoir une approche de partenariat ou de travail d'équipe. Alors, moi, je pense que c'est important de permettre aux politiciens d'avoir des victoires, parce que moi, j'ai pas choisi de faire la politique. J'ai pas choisi d'aller en politique, même si j'ai un agenda politique puis un agenda administratif, là, j'en conviens. Mais j'ai pas fait ce choix-là. Mais je reconnais que ceux qui ont fait le choix doivent aussi se développer puis avancer, puis permettre au Québec d'avancer, parce qu'ils ont un rôle à jouer, un moment clé à l'Assemblée nationale que moi, je peux pas jouer. Par contre, quand j'ai la rondelle dans l'équipe, ben moi, il faut que je fasse avancer. Puis si c'est à mon tour de lancer au but, ben je lance, mais j'ai une passe. Fait que moi, je suis plus centriste par rapport à cette approche-là. J'ai besoin des politiciens. Vraisemblablement, je suis à la tête d'une organisation qui relève du gouvernement. Mais le gouvernement a besoin de moi. Les politiciens ont besoin de moi pour qu'en bout de piste, les citoyens aient des services, puis qu'on utilise les ressources de façon consciencieuse et correcte. Fait que pour moi, je suis beaucoup plus au centre par rapport à ça, puis je suis pas avaricieuse d'avoir le plus de buts, parce que je pense que un grand hockeyeur a gagné beaucoup en faisant de nombreuses passes, puis il s'appelait Wayne Gretzky. Alors, moi,
c'est votre idole, ça?
Puis j'avais beaucoup d'admiration, parce qu'il était toujours au bon, à la bonne place sur la patinoire, toujours à faire la bonne passe. Donc, voilà où je me situe.
D'accord. Bon, mesdames, pour les dernières 5 minutes de cette émission qui a passé beaucoup trop vite, je vais vous donner à chacune une baguette magique qui va vous permettre de changer le monde. Qu'est-ce que vous changeriez avec votre baguette magique dans cette région? Que changeriez-vous particulièrement à la condition des femmes? Et je précise encore davantage, à quel malheur vécu par les femmes êtes-vous les plus sensibles? Sonia? Sonia Etier.
Moi, là, la première des choses qui me vient en tête, c'est la pauvreté. La pauvreté. Puis on peut le mettre en lien avec, il y a 20 ans, on a un gouvernement qui était le Parti québécois qui avait mis en œuvre la politique familiale, qui a développé les réseaux éducatifs à la petite enfance, puis qui a permis à 80 % de femmes monoparentales de sortir de la pauvreté. Alors ça, là, c'est un élément qui est très important. Donner, permettre aux femmes d'avoir des outils, des services pour pouvoir intégrer le marché du travail, pour pouvoir s'y développer. Alors, pour moi, la pauvreté est la deuxième des choses que nous revendiquons en collectif, c'est salaire minimum à 15 $ de l'heure. On le sait, il y a 700 000 personnes au Québec qui gagnent moins que ça et qui aideraient beaucoup les femmes à sortir de la pauvreté, à aider leurs enfants à se développer. Alors, pour moi, là, ça, c'est ce qui me parle le plus.
Parfait, excellent. Oui, il y a José Plamondon.
Ben, en fait, moi, je vais dans le même sens, la pauvreté. Puis si je fais un parallèle homme-femme, moi, j'ai deux enfants. J'ai une jeune fille puis j'ai un jeune homme. Et je suis bien plus inquiète que ma jeune... Puis là, je vais faire un parallèle avec l'éducation aussi, parce que c'est important. Quand la pauvreté, il faut être en mesure aussi d'éduquer nos gens. Je pense que une jeune femme non éduquée, c'est beaucoup plus difficile pour l'avenir qu'un jeune homme qui va pas être en mesure de trouver des emplois, parce qu'il y a une iniquité avec les femmes. Donc, je dirais pauvreté et éducation pour
bien.
Ma part.
Vous avez bien utilisé votre baguette magique. Diane de Tonnancourt, il nous reste à peine 3 minutes.
Ah, ben, je pense que la pauvreté fait consensus. Moi aussi, la sécurité aussi des femmes, que ce soit à l'âge adolescent ou au vieil âge, je pense que la sécurité des femmes aussi, c'est un enjeu qu'il faut travailler.
Sylvie Pouliot?
Ben, moi aussi, j'irais dans le même sens de la pauvreté. Puis, plus on va avoir des politiques et des atouts pour la flexibilité travail-famille, c'est la clé, justement, pour participer encore plus activement. Puis qu'on partage la charge mentale des besoins de la famille, mais aussi des besoins de la vie économique.
Maud Allaire.
Oui, je vais faire un lien avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit au Québec présentement et que beaucoup de femmes aussi qui sont vulnérables, qui ont besoin aussi peut-être d'un support supplémentaire pour les aider à oser retourner aux études avec des programmes qui vont les aider aussi si sont monoparentales à pouvoir subvenir à la famille. Donc, plus que ces jeunes femmes-là vont avoir les moyens et peut-être l'aide aussi pour bien les orienter dans un secteur où ce qu'on a besoin d'elles puis qu'ils vont faire la différence, bien, on va pouvoir changer la communauté à cet effet et travailler tous ensemble à aider ces femmes-là à s'émanciper. Parce que pour moi, l'émancipation de la femme est très importante et il faut aider justement ces femmes-là peut-être à sortir d'un milieu de vie où il y a de la misogynie qui est encore présente.
Merci, Maude. Louise Potvin, vous êtes la dernière à prendre la baguette magique. Vous avez 30 secondes pour faire de la magie.
Moi, je suis un peu biaisée par toute l'évaluation des déterminants de la santé. Puis, effectivement... la pauvreté ou ne pas avoir accès à un revenu ou une formation qui nous permette d'aller plus loin sur lequel on peut tabler constitue un frein important. Et puis, même si même si je peux comprendre que ma fille a peut-être grandi dans un environnement privilégié, la première chose que je lui ai dit, parce que je l'ai entendu très, très tôt, peu importe ce que tu choisiras de faire, je vais t'aider à atteindre ce but. Mais dis-toi qu'il faut que tu envisages qu'un jour, tu sois, toi, un chef de famille, que tu doives subvenir à des personnes autour de toi et que tu seras la personne sur qui les gens devront compter.
Wow! Merci beaucoup, Louise Potvin. C'est un merci que je vous adresse à toutes et tous. Ça a été extrêmement intéressant, cette émission-là. Alors, Louise Potvin, José Plamondon, Maud Allaire, Sonia Etier, Diane de Tonnancourt et Sylvie Potvin, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, à mardi prochain pour une autre édition de La Tribune.